Sur la route, quelques ralentissements toujours sur l'A28 à proximité, au sud du Mans, à proximité de Brette-les-Pins, en cause des travaux sur les voies. Et dans le ciel, Julia Beaufils.
Un temps majoritairement gris au programme du jour, avec des pluies de part et d'autre du territoire. Cet après-midi, côté température, 12 à 15 degrés pour les maximales.
Une question aujourd'hui, faut-il couper des arbres pour favoriser les transports en commun en ville ?
Au Mans, deux arbres vont être coupés, avenue Bollée, pour créer trois chronolignes. Vous savez, ce sont ces bus rapides avec voies réservées. Alors le projet forcément fait grincer des dents riverains et écologistes. La mairie assure que d'autres arbres seront replantés. Et c'est plutôt une bonne idée, selon Gilles Galopin, enseignant-chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers, spécialiste de l'arbre, du végétal et de la santé en ville. Il était l'invité ce matin sur notre antenne. Pour lui, nature et urbanisme peuvent se conjuguer.
La ville a été créée par l'humain et elle est faite pour que l'humain puisse bien vivre dans cette ville. Il ne faut pas oublier ça. Donc cette notion de bien-être, de présence de végétal dans la ville est essentielle. Bon, après, quand on dit effectivement on veut créer une ligne de tram, l'objectif c'est d'apprendre à cohabiter intelligemment. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne va pas supprimer certains arbres parce qu'on va améliorer notre confort. On peut le faire. Il faut le faire quand même avec prudence. Il faut le faire avec modération. Et surtout, il faut toujours avoir une logique à long terme. Il faut savoir que le végétal, ça pousse lentement. Un arbre, ça pousse lentement. Ce n'est pas subitement, on va décider, tiens, il y a le changement climatique, tiens, voilà, on veut changer les choses radicalement. Non, la nature pousse lentement. Et donc, il faut qu'elle s'inscrive dans une logique à long terme. Merci. C'est ça qui est important de prendre en compte dans nos aménagements présents et futurs.
Une interview de Gilles Galopin, enseignant-chercheur à l'Institut Agro Rennes-Angers, à réécouter sur francebleu.fr. Autre projet en faveur de la transition écologique dans la métropole mancelle, la future centrale solaire Le Champ de Paris à Ivry-l'Évêque. 20 hectares recouverts de panneaux photovoltaïques, le plus grand projet en cours en Sarthe. Une mise en service de la production électrique prévue en juin prochain, au bénéfice de 6800 habitants. Alors Christelle Caillot, comment ça marche ?
Imaginez 42 000 panneaux solaires mis bout à bout sur une dizaine de rangées orientées au sud avec une hauteur de moins de 5 mètres et avant de produire de l'électricité pour 6 800 personnes, il a fallu débourser 16 millions d'euros. Loïc Picot, le PDG de l'entreprise IEL qui a obtenu le marché.
Ici on est sur un terrain privé et IEL a un bail de longue durée avec le propriétaire. Et nous, on finance, on construit et on exploite le parc.
Alors des panneaux solaires, on voit tous à peu près à quoi ça ressemble, ça reflète le soleil et ensuite le particulier peut avoir de l'électricité via la centrale. Mais entre votre prise pour brancher la cafetière le matin et les panneaux, il y a quelques étapes. Vincent Lois, le chef de chantier.
On a des panneaux pour être ensuite raccordés sur un onduleur, puis ensuite un transformateur, de manière à ce qu'on puisse renvoyer l'énergie directement sur le réseau. Depuis l'entrée du projet solaire jusqu'à une zone qui est à peu près située à 700-800 mètres, on a deux câbles qui sont positionnés l'un à côté de l'autre et qui viennent se raccorder directement au réseau.
À l'arrivée, une électricité plus propre, mais pas forcément moins chère. En revanche, si ce projet vous intéresse, l'entreprise IEL va lancer le mois prochain un financement participatif.
IEL qui travaille également sur un autre projet de centrale électrique en Sarthe, ce sera Olude.
Et les escrocs utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle.
En Sarthe, les textos d'arnaque au compte CPF, on connaissait déjà, les faux appels de banquiers aussi, mais cette fois les arnaqueurs ont carrément usurpé la voix d'un élu grâce à l'intelligence artificielle. La semaine dernière, un habitant de Bazouges, Crest-sur-Loire, près de la Flèche, a reçu un appel d'un homme qui s'est fait passer pour le maire de sa commune, Gwenaël de Sagazan, et lui a demandé ses codes bancaires. Alors heureusement, cet administré n'est pas tombé dans le panneau. L'histoire rocambolesque est à lire sur francebleu.fr.
La bourse de Copenhague au Danemark en feu.
Des images impressionnantes qui rappellent celles de l'incendie de Notre-Dame de Paris. Vers 7h30 ce matin, des flammes ont commencé à embraser la bourse de la capitale danoise, un bâtiment historique construit au XVIIe siècle. Des pompiers luttent encore actuellement contre le feu, soutenus par l'armée. L'escalade au Moyen-Orient se confirme. Après les frappes iraniennes du week-end, Israël annonce qu'une riposte se prépare. L'Iran, de son côté, affirme que la moindre action israélienne provoquerait une réponse sévère. Les autorités internationales multiplient les appels au calme pour empêcher l'embrasement de la région déjà au bord du précipice, selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres.
Demain, les équipages des 24 heures moto paraderont dans les rues du Mans.
47e édition des 24 heures moto, c'est samedi à 15h sur le circuit Bugatti. 48 équipes engagées et parmi elles des locaux. Pour certains, c'est même une première, comme pour l'association sartoise Plein Gaz 72. Après les 12 heures de Magny-Cours, les 24 heures de Barcelone, Jean-Michel Naga, le team, a pris hier leur marque dans leur paddock.
Et l'essentiel fonctionne, les deux motos bien sûr sont prêtes. Valentin, le chef mécanicien, les a fait tourner quelques minutes seulement. Des Yamaha 1000 cm3 capables d'atteindre de belles pointes de vitesse.
Bien énervé, plus de 300 km/h. Là je pense qu'ici ils vont arriver sur les 280, 290 au bout de la ligne droite déjà.
Et avant de les lancer sur le circuit, les bénévoles de cette équipe Plein Gaz 72 devaient déjà aménager le paddock. C'est le team manager Nicolas Genetet qui coordonnait l'organisation des différents espaces. Juste derrière l'atelier,
on va avoir le stockage du stock de pièces et on va avoir tout ce qui est pneus. Et dans le fond, on va avoir un petit espace qui va être réservé pour les pilotes. On a un ostéopathe, on a du couchage, on a tout ça.
L'ostéopathe installé dans un semi-remorque, on est loin du confort des professionnels. Mais c'est l'aboutissement d'un projet lancé il y a 6 ans par Vincent Bridel, pilote et président de l'association. Il se voit encore quand il était adolescent dans les tribunes de l'autre côté de la piste.
Le rêve de gosse. J'aurais pas pensé que je serais là un jour, quoi. Faut du monde et puis de l'envie et puis de la passion. C'est la passion qui fait vivre la chose, quoi. Nous on vit de ça et c'est ça qui nous pimente et qui nous donne l'adrénaline.
Le budget de l'association est l'un des plus modestes de ces 24 heures moto, 100 000 euros tout compris pour réaliser leur rêve.
Un reportage de Jean-Michel Naga retrouvé sur francebleu.fr et votre appli ici. Et puis ça y est, la flamme olympique des Jeux de Paris 2024 s'est allumée ce matin à Olympie. Alors normalement, la tradition antique veut qu'elle soit allumée par les rayons du soleil. Pas de chance, c'était nuageux en Grèce ce matin. Mais la flamme de réserve a permis le bon déroulement de la cérémonie. La flamme entame donc son long voyage vers Paris le 26 juillet prochain. Elle arrive en France par Marseille le 8 mai. La météo, qu'est-ce que ça donne ?
Eh bien, de nouveau un temps gris au programme du jour. De la pluie est prévue cet après-midi, notamment sur le Perche sartois ainsi que vers le nord-ouest.